Thiers par le père Philippe Arimont, le 20 octobre 1989, premier cours.
Je réponds aux questions posées. Vous avez dit que la matière était un principe fondamental, et ensuite que la matière était source d'inintelligibilité. Oui, de deux manières différentes. Comment un principe peut-il être source d'inintelligibilité? Parce qu'il est matériel. Qu'est-ce qu'un principe fondamental? Un principe, le fondement ex parte materiae. Toujours. Alors, est-ce que on précise le fondement par la matière ou la matière par le fondement? Oui. Le fondement se prend toujours du côté des matériels. Quel est le fondement d'une maison? C'est pas le toit. Je ne viens jamais à l'idée de dire que le toit est le fondement d'une maison. Quel est le fondement d'une maison? Mais c'est ce qui est en terre. On fait les fondements d'une petite maison en creusant dans le sol pour découvrir le roc. Dès qu'on a découvert le roc, ben ça va. On touche quelque chose qui est stable. Mais le fondement, c'est la stabilité. C'est ce qu'il y a de plus radical. Ce au-delà de quoi on ne peut pas aller. Mais quelle différence entre un principe et un fondement? Je crois que c'est analogue, vous voyez, à ce que la différence entre un principe et un élément. Le fondement implique toujours une manière d'exister, tandis que le principe, c'est uniquement le testi. Une manière d'exister, un fondement. Un fondement existe. Je peux employer la matière prima en disant que la matière prima est un principe fondamental. Quand je dis principe fondamental, je veux dire, c'est justement le principe qui est à la base de tout, qui fait que ce par quoi le fondement est fondement. Quand je dis que la matière était source d'inintelligibilité, il serait plus juste de dire que la matière est source de limitation, donc d'inintelligibilité. La matière en elle-même n'est pas intelligible. Il y a les principes. Parce que en disant que tout principe est intelligible, vous identifiez principe et forme. C'est la forme, c'est la détermination qui est source d'intelligibilité, comme telle. Alors le principe formel est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais la matière n'est intelligible que par la forme. En elle-même, elle est inintelligible. Comme toujours la puissance. La puissance en elle-même est inintelligible. Et la puissance peut être co-principe. Et c'est pour ça que je ne peux connaître la matière que d'une manière analogique. C'est-à-dire pas l'intermédiaire de la forme. Par la forme, je connais la matière. Mais je ne la connais pas en elle-même. Est-ce que ça va, ça? S'il y a des questions encore là-dessus, il faut les dire tout de suite. Vous avez raison de poser ces principes, parce que je comprends, moi. On parle librement. Donc, ça, de temps en temps, puisque c'est au point de vue analogique, c'est vrai, je n'emploie pas toujours exprès du reste, c'est bon de secouer dans le sens divers. Alors, si le mouvement naturel des réalités physiques est immanent, et si le vivant peut se déplacer, se définir comme ce qui se meut, quelle est la différence entre le mouvement naturel des réalités physiques et le mouvement immanent des vivants? Le mouvement naturel, le mouvement des vivants est naturel. L'aspect physique est plus fondamental que l'aspect du vivant. Les vivants sont des êtres physiques, mais qui, au-delà de l'aspect physique, impliquent la vie. Vous allez tout de suite comprendre, j'espère. Vous distinguez. Distinguez ce qui émue, ce qui se meut. Nature, forme, nature, matière. En comprenant que matière et forme est une distinction que je découvre en premier lieu dans l'œuvre d'art. Toute œuvre d'art implique forme, matière. Excellent pour la forme, piteux pour le fond. Hein? Correction d'une dissertation. Excellent pour le fond, mais malheureusement la forme, oh là là, vous l'avez complètement négligée. La distinction de la matière et de la forme est une distinction qu'on trouve dans l'œuvre d'art. C'est là où vous la découvrez en premier lieu. De là, vous la transposez analogiquement dans le domaine spéculatif de la réalité physique. Et c'est pour ça que vous dites nature-forme, nature-matière, pour bien montrer que ce n'est pas la première distinction. Alors c'est là où je vous ai déjà dit, faire attention à tous ces thomistes qui disent que la distinction de la matière et la forme est une distinction première dans l'ordre de la philosophie de la nature, c'est pas vrai. La philosophie de la nature provient d'une première connaissance philosophique de l'œuvre d'art. Contrairement à tout ce que dit la scolastique. La scolastique, c'est pas Aristote. La scolastique, toujours, laïcise une pensée théologique. Alors on dit que la matière et la forme est une distinction première. Vous comprenez ? Vous reprenez la distinction matière et forme dans les sacrements. Pourquoi ? Parce que les sacrements, c'est une œuvre d'art. Et c'est pour ça que Saint-Thomas prend tout de suite la distinction matière et forme. Les sacrements, c'est une œuvre d'art de l'Esprit-Saint. C'est pas quelque chose... C'est pas une nature. C'est pas la grâce. C'est source de la grâce. C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art pour le culte. C'est pour ça que la distinction matière et forme est tout de suite prise. Et là, c'est tout à fait juste. Dès que je regarde dans le domaine spéculatif, je prends nature et matière. Et quand il s'agit du vivant, je retrouve âme et corps. C'est curieux, vous voyez. Très curieux. Bien, réfléchissez beaucoup. Ça en vaut la peine. C'est quelque chose de très fondamental au point de vue philosophique. Sur ces trois manières de distinguer. Une. Première, dans l'ordre génétique. Première, dans l'ordre de nature. De perfection. Pour mettre nature. Perfection. La distinction matière et forme est la plus parfaite dans les distinctions âme et corps. Parce que dès que je suis au niveau non plus de ce qui se meut, mais ce qui est, je suis au-delà de cette distinction. Et je distingue substance, qualité, accident. Substance, détermination fondamentale, première, qualité, distinction, détermination fondamentale, la substance, détermination seconde, relative. Donc vous voyez, je suis au-dessus de la distinction matière et forme, dès que je suis en philosophie première. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il pourrait me le dire ? deux questions à vous demander. Deux questions. Pourquoi la distinction âme et corps est la première selon l'ordre de perfection pour la distinction matière et forme? Et pourquoi en métaphysique je suis au-delà de la distinction matière et forme? Très bien. La matière n'est pas un principe constituant, n'est pas première. Donc, je ne peux pas distinguer matière et forme au niveau des principes. Je suis au-delà. Je suis tout de suite au niveau de la substance qui est première dans l'ordre des déterminations. Donc, première dans l'ordre des formes. La substance n'est pas forme, contrairement à ce que dit Tricot. Pourquoi, autre question, pourquoi la distinction âme et corps est première dans la distinction matière et forme?
Le vivant est la réalité en devenir la plus parfaite, tout justement.
Oui, et peut-être un peu pousser un peu plus. Qu'est-ce que c'est que l'âme?
Sa forme du corps.
Quoi? Oui, oui, mais en elle-même.
Analogiquement, c'est une nature.
Non, il faut dire que la forme, puisque le vivant parfait c'est l'homme, et l'âme est capable de subsister par elle-même. Donc je suis en présence d'une forme parfaite. Et donc la distinction matière et forme, donc, âme et corps, est vraiment première dans l'ordre de perfection, puisque l'âme peut subsister. Tandis que la forme, au niveau des réalités physiques, ne peut pas subsister. Donc là, vous avez les trois distinctions forme et matière, très très intéressant ça. Et de voir comment le théologien joue avec ça admirablement. Saint Thomas, je parle. Et comment, dès que je suis au niveau métaphysique, la distinction matière et forme est dépassée. Donc, la distinction matière et forme n'est pas la distinction principale de toute la philosophie. Réaliste. Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, ça. Commencez à le comprendre. Bon. Alors, si le mouvement naturel des réalités physiques est immanent, et si le vivant peut se définir comme ce qui se meut, quelle est la différence entre le mouvement naturel des réalités physiques et le mouvement immanent des vivants? Très bonne question. C'est que le mouvement immanent des réalités physiques demeure toujours dans la succession. Donc c'est l'immanence différente. Il y a deux immanences différentes. La première immanence s'oppose à l'extériorité. Et la seconde immanence s'oppose à la juxtaposition. L'au-delà de la juxtaposition, c'est le mouvement immanent du vivant. Parce que ce n'est pas un mouvement quantitatif, c'est un mouvement qualitatif de vivant. Tandis que le mouvement physique implique toujours la juxtaposition. Est-ce que vous voyez bien ça? Mais les deux sont immanents. La nature, dans le monde physique, est principe du mouvement. Est un mouvement qui est immanent, qui caractérise le corps physique. Quel est le mouvement du feu? Il monte en haut. Quel est le mouvement de la terre? C'est immanent. Au feu, il y a la terre. C'est pas extrinsèque. Quand le feu monte, il reste feu. Quand la terre descend, elle reste terre. Oui. Donc c'est un mouvement immanent au feu et à la terre. Mais la différence du vivant, c'est qu'il assimile. Donc c'est une immanence qualitative. On a suivi. Et mouvement qualitatif, une immanence qualitative, donc au-delà de la juxtaposition de la quantité. C'est-à-dire que le mouvement naturel, physique, est toujours dans la quantité. Donc appliquant la juxtaposition. C'est bien vu ça? On va dire comme Heidegger, ça fait penser. C'est matière à penser. Nous allons continuer cet effort de voir qu'est-ce que c'est que le lieu, le topos. Réfléchissez, vous êtes dans un lieu. Le cours aura lieu à tel endroit. Le cours aura lieu à tel endroit. On situe le lieu. Vous êtes dans un lieu. Et quand vous allez vous lever tout à l'heure pour descendre entre les deux cours, vous changez de lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous ne changez pas du tout. C'est vous la même personne. Le vivant est capable de changer de lieu par lui-même, automobile. Et quand on parle de l'automobile, c'est aussi métaphorique que de parler du cerveau artificiel. Parce que l'automobile ne se meut pas du tout par elle-même. Donne l'apparence, vous voyez, pharisien, donne l'apparence d'être, de se mouvoir par elle-même. Et elle trompe tout le monde. Et vous dites automobile. C'est très très curieux. Comme on dit, le cerveau artificiel, l'intelligence artificielle. C'est très curieux. Mais notre langage, de plus en plus, s'extériorise. Vous pouvez avoir le langage du 17e et le langage d'aujourd'hui, vous verrez que ce langage est beaucoup plus extérieur. Tout s'extériorise. Mais de plus en plus devant les apparences. Je ne sais pas ce que dirait Platon. Vous savez, quand il parle de la caverne, les gens ne regardent que l'extérieur. Ils voient que l'extérieur. Ils ne voient plus l'intérieur. C'est le domaine des médias. Le domaine des médias, c'est le domaine de l'extériorité. Très peu d'intériorité dans les médias. À tel point qu'on est obligé de rappeler, mais pour transmettre quelque chose, il faut avoir quelque chose à transmettre. Donc, on est obligé de le rappeler. Tellement on ne regarde plus que l'aspect extérieur qui frappe. Séduit. Tout est fait pour ça. Alors, lisons ce passage d'Aristote qui n'est pas commode, mais qui est intéressant. Il faut au moins que vous l'ayez entendu une fois dans votre vie. Parce que saint Thomas emploie constamment le point de vue du lieu. Oh, ça se rattache à Aristote. Alors, il faudrait, si on était tout à fait. Si on avait le temps, regardez le commentaire, regardez-le si vous pouvez, le commentaire de saint Thomas sur la physique. Saint Thomas a commenté ça, il s'est penché là-dessus. Et il a essayé de comprendre, puis il a transposé le lieu ensuite. Et il l'a transposé de façon telle qu'il a parlé de l'omniprésence de Dieu. Dieu est-il dans un lieu? Il est au-dessus du lieu. Et il est présent à tout être. Donc, c'est l'omniprésence. Parce que vous êtes présent à quelqu'un comme vous êtes dans un lieu. Alors, si ce que peut bien être le lieu. Voici comment on le rendra sans doute manifeste. Donc on va essayer de le montrer le mieux possible. Phanéron, le mot phanéron, manifeste, apparent, fantasme, on le montre. Prenons à ce sujet ce qui semble être ses véritables propriétés essentielles. Aristote souligne, il ne dit pas ce qui est essentiel, les propriétés essentielles. Donc, second katoto, hein, je le dis exprès pour vous familiariser avec ce langage. Ainsi, nous admettons que le lieu est l'enveloppe première de ce dont il est le lieu. L'enveloppe première. Quand on est assis sur un fauteuil, le fauteuil est votre lieu. Si vous êtes assis sur une cathédrale, c'est la cathédrale et votre lieu, l'enveloppe extérieure de ce qui est localisé. Mais c'est le premier sens. Enveloppe. Quand je vais prendre un sac, puis je vous mets dedans, puis je vous portez, alors à ce moment-là, le lieu, c'est que vous êtes dans le sac. Mais c'est ce qui vous enveloppe. Et à ce moment-là, vous êtes enveloppé par le sac.
Mais dehors,
qu'est-ce qui enveloppe ? Ah, c'est justement, hein, c'est ce qu'on va chercher. Hein. Quelle est l'enveloppe de ce firmament ? Et quand je vous mets dans une brouette, la brouette est votre lieu.
Dehors,
ah, mais oui, mais attention, Phanéron, je prends ce qui est le plus manifeste. Oui, je commence toujours par quelque chose qui me regarde, moi. Ça, c'est ce qui est le plus manifeste. Vous, vous prenez tout de suite ce qui est le plus difficile.
Non, parce que justement, on précise que le lieu ne dépend pas de la matière.
On va voir. On va voir. Ici, je suis Aristote. Alors il dit, ce qui est le plus manifeste, je vous mets dans une brouette. Et vous mettant dans une brouette, la brouette vous enveloppe. Je vous mets dans un sac, le sac vous enveloppe. Et c'est bien ce qui est dit. Ainsi, nous admettons que le lieu est l'enveloppe première de ce dont il est le lieu. Il n'est rien de la chose. C'est vrai. La brouette, c'est pas vous. Et le sac, c'est pas vous. Il n'est rien de la chose. Et que le lieu premier n'est ni plus grand, ni plus petit que la chose. Il l'enveloppe. Vous voyez ? La peau enveloppe mon corps. Quand vous êtes écorché, vif, là vous le savez. Vous voyez, c'est ça qui est très joli dans Aristote. C'est qu'il prend tout de suite un exemple que tout le monde peut comprendre. C'est Phanéron, c'est tout à fait manifeste. Quand vous vous couchez par terre, le sol est votre lieu. Hein ? Je parle de votre lieu. Sans intention. Est-ce que la maison, c'est votre lieu ? Non, c'est pas votre lieu. Oui, ça vous enveloppe pas tout de suite, parce qu'on peut mettre plusieurs personnes dans le même lieu. Alors, ça, c'est vrai. Je peux mettre une multitude dans ce lieu. Mais si j'ai tasse, les tasses, les tasses, comme dans le métro, on est tassé comme des sardines. Le métro devient le lieu de toutes ces personnes qui sont dedans. Alors, je continue. Ni plus grand que là, qu'il peut être abandonné de chaque chose et qu'il en est séparable. Donc, vous voyez, toute l'enveloppe. Donc, la première, je dirais, le point de départ, on prend l'enveloppe. Vous enveloppez des pommes dans une caisse. Vous les enveloppez. Tout le monde le dit. Et la caisse est le lieu de ces pommes. Momentanée. Parce que quand vous ajoutez, quand vous recevrez par la poste le colis, première chose, c'est d'enlever l'enveloppe et voir ce qu'il y a dedans. À moins qu'on vous fasse une farce. Ça arrive de temps en temps, 1er avril. J'envoie un colis magnifique. Puis, il y a de la paille dedans. Et vous cherchez bien, parce que vous avez mis dessus très précieux, très fragile. et vous cherchez bien, il doit avoir une perle dedans. Et voyez que de la paille. À ce moment-là, vous êtes furieux. On m'a trompé. Parce que l'enveloppe, c'est l'enveloppe de quelque chose. Quand vous envoyez par mégarde une enveloppe sans mettre la lettre que vous avez écrite, ça arrive chez les gens distraits. Et la personne reçoit la lettre. Elle est stupéfaite. Il y a une enveloppe et rien dedans. Alors que l'enveloppe était faite pour contenir quelque chose. Mais c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'enveloppe? On fait la fumologie de l'enveloppe. On peut faire la fumologie du colis de l'enveloppe. De la chaise qu'il reçoit. Aristote fait ça. Petite fumologie là-dessus. Avant de regarder ce que c'est que le lieu, ajoutons qu'à tout lieu appartiennent le haut et le bas. Un colis précieux. Hein, ne le renversez pas, le haut et le bas. C'est encore, actuellement, c'est comme ça. Ça n'a pas changé. L'enveloppe n'a pas changé. Ajoutons qu'à tout lieu appartiennent le haut et le bas. Et que les corps sont transportés par nature. Ils reposent dans les lieux propres à chacun. Et cela soit en haut, soit en bas. Vous avez remarqué comment dort une chauve-souris? Très curieux. Elle dort de façon très particulière, la chauve-souris. Ça fait partie de sa nature. C'est-à-dire qu'en vous, et c'est son lieu naturel, elle n'est plus vivante à ce moment-là, elle dort. Quand on dort, on reprend un lieu naturel. C'est très curieux. Et on se repose en ce lieu naturel. On se repose en son lieu. Et si le lit est mal placé comparativement aux influences telluriennes, on ne dort pas, on reste agité. Quand vous essayez de dormir sur un bateau, quand il y a un tangage énorme, énorme, vous ne dormez pas. Parce que vous avez envie de vomir. Donc vous ne vous reposez pas du tout. Cela posé, il faut poursuivre l'examen. Je ne peux pas rester à cette description, l'enveloppe. Cela posé, mais c'est intéressant, vous voyez. Aujourd'hui, on démarquerait ça d'une manière un peu plus détaillée, plus subtile, avec tout l'aspect de la fémologie. La fémologie reste au niveau de l'enveloppe. Cela posé, il faut poursuivre l'examen. Et on doit tâcher de diriger une telle recherche de façon qu'elle permette d'obtenir l'essence. Ah, ça c'est très intéressant. Vous voyez, tout l'examen va se poursuivre pour chercher ce qu'est la chose. Le diesti, qu'est-ce que c'est? Afin de résoudre nos difficultés et de transformer en propriété véritable du lieu celle qu'on avait seulement admise comme telle. Et je prends ce passage que c'est merveilleux comme méthode. C'est une chose difficile de savoir ce que c'est que le lieu. Alors Aristote reprend toute la méthode philosophique. Vous commencez par les propriétés apparentes pour arriver à saisir le tiesti. Et une fois que vous aurez saisi le tiesti, vous comprendrez les propriétés essentielles. C'est très très simple. C'est dit là. Toute la petite méthode philosophique. Et dans tout problème philosophique, on devrait faire ça. La petite enquête. La petite enquête de ce qu'on dit être le lieu, l'enveloppe. En outre, à rendre manifeste la raison des embarras. La raison des embarras. Et donc, la cause de tout ce qui fait qu'on part dans tous les sens. La raison des embarras et endroits difficiles rencontrés dans ce sujet. Une fois que vous aurez trouvé le tiesti, vous trouverez la cause. Chercher le tiesti, c'est chercher la cause. Qui explique pourquoi il y a un embarras. Il y a des déviations. Telle est la meilleure manière de tout expliquer. Ah. Oscar Anne Calista Egnus, Egnu Oito et Gaston. Et Gaston, chacun. Chacun, la meilleure façon, Calista, la meilleure façon de découvrir ce qu'il est, de prendre ce procédé. Et Aristote reconnaît qu'il aimait là la méthode générale et la meilleure. Pour expliquer toutefois, quand vous avez une petite dissertation et que vous voulez savoir, commencez par tout ce qui apparaît. Récoltez tout ça. Une bonne information. Regardez les articles de journaux. Parce que ça donne uniquement ce qui apparaît. C'est très rare qu'un article de journal aille un peu plus loin. On décrit. Il pleuvait ce jour-là. C'était en automne, les feuilles commençaient à tomber. Il faisait une chaleur moite. On décrit. Puis après, vous cherchez. Qu'est-ce que c'est le TST? Vous interrogez. Qu'est-ce que c'est? Et si vous le découvrez, oui, là, jouera l'induction. Une fois que vous aurez découvert le TST, vous aurez découvert la cause. Et une fois que vous aurez découvert la cause, vous aurez découvert les propriétés. Ça, c'est la réflexion. J'aurais pu le passer, parce que c'est intéressant de se rappeler ça. D'abord, il faut réfléchir qu'aucune recherche, donc seconde réflexion, méthodologique, comme on dit aujourd'hui, il faut réfléchir qu'aucune recherche ne serait institué sur le lieu s'il n'y avait pas une espèce de mouvement selon le lieu. Ça, c'est une remarque très intéressante. Aristote cherche comment se fait-il que cette recherche sur les lieux ait eu lieu. Et je joue exprès sur les mots, hein. L'origine, le point de départ de cette recherche. Pourquoi on a recherché le lieu? Comment se fait-il qu'on a recherché le lieu? C'est toujours très intéressant, dans toute recherche, d'essayer de prendre le point de départ de la recherche. C'est déjà beaucoup plus astucieux. Ça, les journalistes le font de temps en temps. Les très bons journalistes, ils veulent chercher l'origine. D'où vient cette communauté? D'où ça vient? L'origine. Comment elle est née? Oui, l'origine. Ça, c'est descriptif. Et alors, Aristote montre qu'on n'aurait jamais institué une recherche sur le lieu s'il n'y avait pas eu le mouvement selon le lieu. Catatopon, et le kinesis, le kinesis, c'est le mouvement selon le lieu. C'est très curieux, c'est intéressant, parce que ça montre que le mouvement selon le lieu manifeste ce qu'est le lieu. Le mouvement, c'est l'acte de ce qui est en mouvement, de ce qui est mu, de ce qui est en puissance. Donc, le mouvement manifeste. Alors, il y a un mouvement local. Ce qu'on appelle le mouvement local. Ainsi, si nous pensons que plus que tout le reste, le ciel est dans un lieu. Ah, ça c'est pour vous. Voyez. Le ciel est dans un lieu. Si nous pensons à ça, c'est qu'il est toujours en mouvement. Très très joli ça, cette remarque, elle est très fine.
Voilà, si vous pouvez donner des exemples, parce que
voilà. Le ciel.
Le ciel en mouvement.
Regardez le ciel, il bouge.
Les nuages.
La lune.
La lune.
Ah, la lune. Et le soleil.
C'est pas le ciel.
Quoi?
C'est pas le ciel.
Ben oui, c'est le ciel. C'est ce qui est sublunaire qui n'est pas le ciel. Mais la lune est déjà le ciel. Après, Et c'est pour ça qu'on a tellement de peine d'y aller. Parce qu'il faut gravir toutes les échelles. Pour y arriver, il faut une grande échelle. Mais c'est le ciel. On parle de toute l'hérité sublunaire. Le soleil aussi, c'est le ciel. C'est le ciel qui est le plus proche de nous. Le ciel qui est le plus en connaturalité avec la terre. Alors il y a un mouvement du ciel. Et ce mouvement étant régulier, uniforme, ça vous inquiète le plus. Mais comme c'est curieux, il semblerait que ce qu'on aime le plus dans le mouvement, c'est le mouvement irrégulier, pas du tout. C'est le mouvement régulier qui nous frappe le plus, qui est le plus étonnant. Parce que qui dit mouvement dit irrégularité, changement. Et qui dit mouvement régulier dit à travers le mouvement quelque chose qui est au-delà du mouvement. Il y a un ordre. Donc, c'est les deux conjoints qui nous frappent le plus. Et ça, c'est tout de suite ce que souligne Aristote. Le ciel est dans un lieu, c'est qu'il est toujours en mouvement. Donc, si le ciel est dans un lieu, c'est qu'il est toujours en mouvement. Or, dans cette espèce de mouvement, il faut distinguer le transport d'une part et d'autre part, l'accroissement, le décroissement. Et en effet, dans l'accroissement et le décroissement, il y a changement de lieu. Et ce qui était d'abord à cette place en est déplacé pour agrandissement ou diminution. Donc, on passe du lieu au mouvement selon le lieu. D'autre part, un corps est mu ou par soi en acte ou par accident. Celui qui est mu par accident, ou peut-être mu par soi, comme les parties du corps, ou le clou dans le navire, ou ne le peut, mais est toujours mu par accident, comme la blancheur et la science. Pour ces choses, en effet, le mouvement de lieu se produit par suite du changement de la chose dans laquelle elles sont. Ça, c'est très calé et c'est très intéressant. Diversité dans les choses mues. Il y a des choses qui sont mues par elles-mêmes et des choses qui sont mues par accident. Le clou dans le navire est-il mu ? Il est mu parce que le navire est mu. Il est mu par accident. Il n'est pas mu par lui-même. Tandis que si je me meus sur le navire, sur le pont du navire, je suis mu par moi-même. Et je suis mu par accident. Il y a les deux. L'avion. Quand vous êtes dans un avion, est-ce que vous êtes mu ? Vous êtes bien assis. Première classe. Bien assis. Un bon fauteuil. Et l'avion se meut. Automobile, il se meut. Et vous, vous êtes mu par l'avion. Vous êtes mu par accident, par exemple. Et comment se fait-il qu'être mu par accident vous secoue tellement ? Par accident, c'est donc extérieur à vous. Et pourtant, ça vous secoue. Passer d'un coin de la terre à l'autre. C'est curieux. Donc vous retrouvez quelque chose de plus profond, le changement du lieu naturel. Vous avez passé d'un hémisphère à l'autre hémisphère de la Terre. C'est quand même très troublant. Vous allez au pôle Nord, vous passez au-dessus. Un lieu dans lequel vous ne pas rester trop longtemps. Comme sur l'équateur. Vous passez vers Akshidans. Mais quand même, réfléchissez sur tout ça. C'est les changements de lieu. Perachidas, le lieu percé, c'est celui dont on est la source. Perachidas, c'est celui dont la source vient à côté. Et le lieu naturel, c'est encore autre chose. D'autre part, nous disons bien qu'une chose est dans le ciel, comme dans un lieu, parce qu'elle est dans l'air et que celui-ci est dans le ciel. C'est votre question de tout à l'heure. Hein. Vous êtes dans l'air, vous, actuellement. Je ne dis pas que vous êtes dans l'air, mais vous êtes dans l'air. Assis dans l'air. Et l'air est dans le ciel. Donc, par l'air, vous êtes dans le ciel. Dans l'air, oui. Mais non dans tout l'air. Et c'est la partie extrême et enveloppante de l'air que nous avons vu. En effet, si c'est tout l'air qui est lieu, chaque chose ne sera pas égale à son lieu. Or, nous avons admis cette égalité et que tel était le lieu immédiat de la chose. Il y a un lieu immédiat, il y a un lieu lointain. On commence à préciser certaines choses, hein, comme le lieu naturel et le lieu artificiel. Assurément, quand l'enveloppe est non pas détachée du corps, mais continue avec le corps, on ne dit pas qu'il est en elle comme dans un lieu, mais comme une partie dans un tout. Première distinction de Aristote, ça c'est très intéressant. La partie qui est dans le tout, il faudra regarder ces distinctions avec beaucoup de précision. Son lieu. Non. Non. Être. Non. Son lieu. Je distingue. C'est ça que je cherche. Alors, Aristote va. Alors ça, c'est une analyse très, très intéressante de montrer toutes les confusions possibles. On est parti de l'expérience d'être enveloppé, emmailloté, prise d'habit. Il y a une enveloppe qui vous tombe dessus. C'est vrai, on est enveloppé, emmailloté. Comment se fait-il que l'enfant, emmailloté, est-ce qu'il est dans son lieu? La partie dans le tout. Je vous laisse réfléchir, hein, parce qu'on va y aller petit à petit. Au contraire, quand elle est détachée simplement en contact, le corps est immédiatement à l'intérieur de la surface extrême de l'enveloppe, qui n'est point partie de son contenu, ni plus grande que l'intervalle d'extension du corps, mais lui est égal, car les extrémités des choses sont en car les extrémités des choses en contact sont conjointes. Ici le corps est continu à l'enveloppe, il ne se meut pas en elle, mais avec elle, séparé en elle. Et que l'enveloppe soit mue ou non, c'est toujours la même chose. En outre, quand le corps n'est pas détaché, il est dit comme parti dans un tout. Par exemple, la vue dans l'œil ou la main prends pas tous ces exemples, mais c'est intéressant. Et on tourne autour. Partie, tout, enveloppe. Essayez constamment les deux choses. Est-ce que votre main est dans le corps? Dans votre corps? Vous savez pas très bien quoi répondre. Partie intégrale, le tout intégral, le corps. La main est une partie. On a dit que la partie n'est pas dans le tout comme dans son lieu. Pourtant, le lieu de ma main, c'est bien d'être rattaché à mon corps. Quand je coupe ma main, je la mets à côté, elle n'est plus dans son lieu. Elle végète. Alors, on va arriver à la définition du lieu. Telles sont donc les remarques qui vont maintenant rendre manifeste ce qu'est le lieu. Donc, le tistiotopos. En effet, je le relirai tout à l'heure, le lieu ne peut être, en somme, que l'une des quatre choses qui suivent. Ou il est forme, ou il est matière, ou il est intervalle